pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Dans le texte et de recevoir mon invitée du jour, Nathalie Quintane, bonjour.
Bonjour.
Alors Nathalie Quintane, vous êtes écrivaine et enseignante, qui sont deux identités qui se trouvent précisément au cœur de votre dernier livre et pour lequel je vous invite. Ça s'intitule « Un hamster à l'école » et ça vient d'être édité aux éditions de La Fabrique. Alors, c'est un livre qui vous ressemble, pour ceux qui vous connaissent déjà, qui vous ressemble à plusieurs égards. D'abord, dans sa forme, puisqu'il a cette particularité que vous travaillez depuis quelques années maintenant, qui consiste à brouiller les frontières du genre. Il s'agit donc d'un livre qui n'est ni tout à fait un essai, ni tout à fait un roman, ni un poème, bien que le travail sur la musicalité, sur le rythme, nous dirige vers quelque chose qui pourrait nous y faire penser. Ça vous ressemble aussi par le ton, par l'humour. C'est extrêmement drôle, c'est même hilarant. Parfois, on éclate littéralement de rire en vous lisant. Et en même temps, désarmant, parce qu'on ne sait jamais vraiment si on a bien lu ce qu'il fallait lire. C'est lié notamment à votre usage de l'ironie et puis au fait de multiplier comme ça les degrés de lecture qui fait qu'on est toujours un petit peu déstabilisé. Néanmoins, ce que nous pouvons dire sans trop de risques, c'est qu'il est question ici d'une traversée à travers une institution qui est donc l'éducation nationale, l'école. Et en fait, je dis traversée parce que c'est le mot qui est employé dans la quatrième de couverture. Alors que c'est pas tout à fait une traversée. Enfin, j'ai plutôt eu le sentiment qu'il s'agit d'une espèce de surplace, en tout cas. Et d'ailleurs, vous le dites, c'est le sens de ce titre. Ça nous permet peut-être d'élucider dès maintenant le sens énigmatique de ce titre, un hamster à l'école. J'en dis un petit peu davantage, un hamster, donc pourquoi un hamster à l'école? On comprend que le hamster, au chapitre 16, c'est vous, du moins c'était vous, et puis ça l'est redevenu, puisque vous décrivez donc une scène que je qualifierais de métamorphose kafkaïenne à l'envers, c'est-à-dire que de hamster, vous vous mettez à prendre forme humaine. Je vais citer, si vous le permettez, je vais citer ce passage, qui peut nous servir du coup de point de départ et ça peut permettre aussi aux internautes de savoir un peu de quoi il s'agit. Donc je vous lis. C'est pas facile d'établir d'humain rapport avec des petits quand on est un hamster, mais ça peut permettre de supporter la main de l'institution sur ton dos, sur son gros doigt sous tes aisselles, ne faire que cours, toute sa vie ne faire que cours. Je n'ai jamais balayé la cour, construit un emploi du temps, changé une serrure, négocié avec le rectorat, déballé des surgelés, présidé un conseil d'administration. Virer définitivement un élève. Je ne sais pas s'il y a d'autres hamsters dans l'institution. Je suppose que oui, personne n'est un cas isolé. Mais comment se reconnaître? Comment se reconnaître quand vite on passe? Quelque chose, mais quoi, fait que quand on entre dans la salle des profs, on marque un temps d'arrêt, que longtemps je ne l'ai pas marqué, que je le marque. Cette année, à nouveau, je ne le marque plus, mais je l'ai marqué les années précédentes. Et le signe que je suis en train de quitter ma condition de hamster sans savoir ce que cela me coûte. Les deux binoirs prennent du blanc de l'œil. Les poils tombent, je ne suis plus si rousse, les griffes se rétractent en ongles, les bras poussent et les jambes. Je mange moins de carottes, moins de salades, plus de poulet. Je tourne moins vite dans la roue de l'éducation nationale. Je suis assise sur une table dans la classe, face au bureau, jambes pendantes. Alors, est-ce que vous pourriez commencer par nous éclairer ce passage et nous dire du coup en quoi le hamster figure à une certaine expérience sensible de l'institution?
Il y a un trouble, vous en avez parlé très bien au début, une sorte de trouble dans l'identité, dans le genre, dès le début, au sens où le texte est à la première personne, je, mais ce je n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il est à la fois ce que je suis en tant que narratrice, on va dire, assez proche de ce que je suis en tant qu'enseignante ou en tant que personne en règle générale, mais c'est aussi ce que j'ai été quand j'étais adolescente et puis quand j'étais après étudiante, jeune enseignante, etc., etc. Donc en fait, c'est une multiplicité de voix qui se font entendre, et puis pas seulement d'ailleurs la mienne par le passé ou à présent, c'est aussi la voix des autres, parce que quand j'écrivais le texte ou quand j'y pensais, J'écoutais beaucoup ce qu'avaient à me dire les autres sur leur passé scolaire. Donc il y a aussi la voix de personnes qui n'ont pas été enseignantes ou enseignants, qui ont eu d'autres parcours. Et puis c'est peut-être aussi la voix de l'institution qui parle par moi, parce que quand on écrit et qu'on est plutôt du côté de la littérature que du côté des sciences humaines, en fait, on ne se possède pas. On est un peu dépossédé ou alors hanté, un peu les deux. Et c'est cette dépossession qui laisse la place aux fantômes. Donc c'est pour ça que je suis très sensible au fait que vous ayez cité Kafka. Bien entendu que le hamster, ça vient de là, ça vient du choix des animaux, en particulier chez Kafka, qui permet de rendre compte de l'étrangeté, du décalage par rapport à ici, par rapport à cette institution massive qu'est l'éducation nationale, mais qui peut être mise pour toutes les institutions ou les administrations massives qui pèsent sur nos épaules et qui nous façonnent plus que nous les façonnons. Donc c'était un choix pour dire ça, pour faire passer sensiblement ce décalage, le hamster. Et puis dans le passage que vous avez lu, ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, j'ai été très décalée, ou en tout cas j'ai eu le sentiment, à tort ou à raison, d'être décalée. J'étais perplexe en fait. Dès que je suis, je crois que j'y fais allusion dans le livre, le premier poste que j'ai eu, donc il y a maintenant longtemps, hein, en 87, je pense que c'était, en 1987, j'entre dans un petit collège du Nord, près de Dunkerque, puisque j'ai été nommée à Dunkerque au début, après avoir eu le CAPES. J'entre dans la salle des profs et là, la première phrase, et j'avais pas spécialement d'a priori, j'avais pas vraiment la vocation, mais bon, il fallait gagner sa vie, j'avais passé le concours, je l'avais eu, et puis voilà, quoi, on suit. J'étais jeune, j'avais 22 ans à l'époque. J'entre dans la salle des profs et la première phrase qui me vient, c'est « Ah ouais, là, rien ne va être possible ». C'est sans réflexion du tout, c'est ce qui m'est venu spontanément. « Ok. » Tu sais que là, rien ne va être possible. Et maintenant, à l'intérieur de cette impossibilité totale, tu vas essayer d'entrer dans la roue. Je ne sais pas, à l'époque, je ne savais pas que c'était cette roue que je continuerais à faire tourner. Et donc, ça commence comme ça. Et pendant, je dirais, des décennies quand même, hein, puisque ça fait plus de 30 ans que j'enseigne, c'était acté et je passais très très vite dans la salle des profs en fait, hein, voire je n'y passais pas. Je venais faire cours et puisque ce qui continue d'ailleurs à faire que je suis dans le métier, c'est sans surprise les élèves, hein, les adolescents. C'est clairement la rencontre en fait, ce côté-là du métier, qui est l'essentiel évidemment, qui fait que j'y suis restée, clairement, hein. Et puis, sur les dernières années, on en reparlera peut-être, je me suis enfin fait des copains.
Auprès des professeurs, vous voulez
J'étais
dire?
très seule, je crois, dans ce métier pendant très longtemps. Je me suis fait des amis ailleurs en écrivant, voilà, en faisant plutôt de la poésie et de la littérature. Et puis, sur les dernières années, ça s'est un peu ouvert. Les quelques collègues dans l'établissement où je suis, bon voilà, on a pu discuter et donc le hamster a pu retrouver un petit peu forme humaine quand il est dans l'établissement.
Donc c'est ça, ce moment justement de la
Ouais.
métamorphose correspond à ce que vous nous dites. Qu'est-ce qui se passe pour que
Ah.
vous cessiez d'être un hamster? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic?
Pendant très longtemps, jusqu'à très récemment, j'ai fait une séparation très stricte entre la littérature, l'écriture et le métier d'enseignant. D'ailleurs, c'est deux noms, hein. Mon nom d'enseignante n'est pas Quintane, c'est un autre nom.
D'accord.
Et il était hors de question que les deux se mêlent, qu'on sache que j'écrivais ou inversement, que je fasse rentrer le métier à ce point-là dans l'écriture et dans un projet de littéraire, dans un projet de livre. Parce que, pour plein de raisons, je ne vais pas faire de la psychologie de bazar, hein, mais en gros, j'ai séparé pendant très longtemps les deux. Et puis, sur les dernières années, sans doute par la voie d'une forme de politisation un peu plus précise, où je me suis à la fois dit que, en effet, rien n'était possible plus qu'avant dans l'éducation nationale en termes de politisation de la plupart de mes collègues. Hein, bon. Mais que, bon, il fallait quand même y aller, voilà, essayer de... Donc, je me suis syndiquée, enfin, j'ai fait un des trucs incroyables, quoi. et donc, en me syndiquant, je me suis informée, parce qu'en fait, tout l'aspect administratif, tout ça, là, j'y comprenais rien, hein. J'ai vraiment je comprends rien à ces trucs-là. Tout ce qui est administratif, carrière, échelon, truc, les bras m'en tombent, quoi. J'ai jamais compris le. En fait, je comprends pas le sens de ça. Je comprends pas. Enfin, je sais plus si je le dis comme ça dans le livre, mais par exemple, quand je suis entrée dans le métier et que j'ai compris, à ma grande surprise, que j'allais être encore évaluée. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on était évalué quand on était petit, enfin jusqu'au bac. Et puis après un peu, voilà, quand on était étudiant, normal, c'est l'école, ils mettent des notes. Bon, bah, ils mettent des notes, c'est comme ça, puis voilà. Mais après, on en est sorti de cette affaire quand même. Je rentre dans la fonction publique et je me rends compte que le premier truc qu'on va faire, c'est de m'évaluer tout au long de ma carrière. Carrière, déjà, quel mot. Et là... Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, là. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je suis là, j'ai passé le concours, tu me fais confiance, oui ou non? Si tu m'évalues, c'est que tu me surveilles, tu vas m'inspecter, tu vas me... Oui. Donc l'inspection, c'est le rejeu, encore une fois, du concours, en fait, hein, puisque c'est les mêmes modalités que le passage à l'oral au concours. Donc tu vas passer le concours comme ça jusqu'à la fin de tes jours, tu auras bientôt 60 ans, on va encore venir regarder ce que tu fais... C'est un truc que j'ai jamais compris, ça.
Est-ce qui vous fait dire, d'ailleurs, que si on devait envisager comme ça un acte véritablement révolutionnaire au sein de l'éducation nationale, ce serait le refus de noter, en fait.
De noter et d'évaluer. L'évaluation, bien
voilà, que l'évaluation, c'est vraiment... Vous dites que la note, c'est la structure. La note, c'est la structure de l'école.
Oui. Mais pas seulement de l'école, de la société entière. Mmh. Enfin, puisque le pays France, notre pays, est évalué. Tout tient là-dessus. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses tiennent là-dessus, sur cette idée qu'il faut évaluer. Donc, si on fait vriller ce truc, là, on peut commencer à discuter, éventuellement, de pédagogie alternative. Mais venir mettre des morceaux de bout de pédagogie alternative dans un ensemble qui, globalement, est anti-pédagogie alternative, et dont le socle est l'évaluation, ça, il y a une contradiction essentielle là-dedans. Ça ne peut pas marcher, quoi.
Alors, vous commencez votre carrière dans l'éducation nationale à l'âge de 3 ans, en fait. C'est ce que...
Oui, je ne m'en souviens pas.
Oui, c'est ça. À l'âge de 3 ans, donc en entrant en maternelle. Et après, effectivement, ce que vous nous déployez, c'est vraiment l'image d'un espèce de tunnel sans fin qui va vous trimballer, en fait, comme un paquet d'une étape à l'autre. Donc, du 93 au 95, du lycée à la prépa. Prépa qui en fait, vous prépare finalement à demeurer dans le tunnel, puisque la prépa prépare à devenir prof. Ouais. Donc, vous devenez prof à votre tour. Et donc, à votre tour, vous reconduisez comme ça cette espèce de cercle infernal. Et donc, on a vraiment la sensation que vous avez... qu'en fait, vous avez été happé dans votre parcours, hein, que vous avez été happé. Sans que vous n'ayez eu en fait à véritablement interroger ce parcours, et presque comme si vous aviez été piégé en fait par cette institution. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut parler de...
C'est assez juste, hein, je dirais. C'est assez juste, et c'est ce côté. La seule manière dont je pouvais m'en sortir, c'est l'écriture, c'est clair. Parce que la littérature ou la poésie permettent de rester flottant. Et c'est même une qualité de rester flottant. Et au niveau de la surface et du signifiant, voilà. Hein, c'est vraiment, ça se joue là. Et donc, ce que vous décrivez très justement, c'est ça, c'est quelqu'un qui a toujours été flottant. Enfin bon, voilà, donc d'où la facilité pour les institutions massives, la famille, l'éducation nationale, tout, voilà, tout ce qui structure une société telle que la nôtre, de happer, en effet, piégé, je ne sais pas, c'est un mot un peu fort, mais happer, oui, c'est ça, quelque chose où. Et où, dont et j'ai jamais été recrachée, hein, c'est ça le problème. C'est enfin le problème. Si je recrache ça, je recrache le livre. Hein, voilà, je me recrache pas moi. Je suis toujours dans voilà dans cet état flottant là. Mais ce qui en sort, c'est quelque chose qui a un poids physique. Hein, un livre, c'est physique, symbolique, imaginaire, tout ça quoi. Voilà comment je n'ai pas échappé au piège, je crois pas. Mais c'est à l'intérieur du piège que je ménage, enfin en tout cas le narrateur ou la narratrice, les deux. Hein, je peux même pas, c'est pas sexué spécialement. Je crois que les jeux dans mon travail n'ont jamais été réellement sexués, quoi. Hein, c'est même pas homme-femme, c'est un truc entre les deux avec un petit peu d'animal dedans, même de hamster. Hein,
Oui,
pas
oui.
encore plus étrange que simplement voilà, un mélange des genres. Et j'ai perdu le début de ma phrase, mais c'est normal puisque je flotte. Enfin voilà, donc ça s'est fait comme ça. Oui, à l'intérieur de ce piège ou de cette roue, peut-être que la littérature et le langage, c'est le moment où vous mettez un bâton dans la roue, paf, pour arrêter et faire une image fixe.
Et alors, dans ce jeu de dénonciation, ce que vous dessinez aussi, si on doit traduire ça en termes, comment dire, plus en termes sociaux, j'ai envie de dire, c'est vraiment la dévalorisation d'une profession, celle donc de professeur, qui, je veux dire, l'expression dit que normalement c'est le plus beau métier du monde, être professeur. Et il se trouve que effectivement, il y a eu un temps où être professeur pouvait avoir, comment dire, pouvait être se présenter comme un métier envié, enviable, qui présentait un certain nombre d'avantages. Et là, quand on vous lit, on comprend que, en fait, on a l'impression que professeur, c'est devenu un peu le réceptacle de tous les destins frustrés, quoi. C'est-à-dire que vous nous parlez d'une jeune enseignante qui aurait dû, qui a failli être championne de tennis, mais comme elle a failli être, et ben du coup, elle devient prof. Vous parlez à un moment de plutôt être boulangère que prof, plutôt être travailler dans la mode que prof. Enfin, on a vraiment le sentiment que le prof, c'est quand on a pas réussi à être autre chose qu'en fait qu'on finit par voilà, on se retrouve prof, quoi.
Ouais, ben ça, c'est de fait, ça,
Et
objectivement
c'est vrai
beaucoup.
qu'objectivement, je veux dire, quand on en parle, c'est vrai que professeur, c'est plus du tout, ça a pas du tout, ça a plus tout ce faste qu'on a pu avoir à un moment donné. On se dit, ah bah oui, c'est quand même un métier où on est au contact des enfants, où on apprend. Il y a une vraie dévalorisation même d'ordre moral, en fait, de ce métier-là.
Profonde, profonde. Je dirais deux choses. C'est que, oui, mon père m'a raconté que quand il était enfant dans son village, donc c'est les années 50, l'instituteur faisait partie des nobilités, ou je sais pas,
Oui, voilà, oui.
du village, au même titre que le médecin, le notaire, etc. Hein, quand on s'imagine ça, c'est fou. Mais en même temps, le médecin, par exemple, aussi, ça, c'est un métier qui est en train de se dévaloriser. Et puis, il y a autre chose, oui, c'est sûr, par exemple, il y a de plus en plus de jeunes enseignants qui démissionnent, au fond. Ça se chiffre par milliers, là. Sur les dernières années, j'ai vu les chiffres, hein, 3, 4 dernières années, les gens ont le concours, passent le concours, donc sont fonctionnaires. Bon, en ce moment, après tout, pourquoi pas? Mais ils sont tellement maltraités, entre autres par l'administration, hein, de tutelle, et pas seulement, brinque-ballée, enfin bon, tout ce qu'on sait, qu'au bout de, voilà, 1 an, 2 ans, ils démissionnent. Et démissionner dans l'éducation nationale, c'est pas rien, hein. C'est des vraies démissions dont je parle, hein, de 1 000, 2 000 enseignants par an depuis au moins 3-4 ans.
Pourquoi
Parce
c'est pas rien
que,
de démissionner dans
parce qu'on peut se mettre en disponibilité. Et on ne perd pas le.
Qu'est-ce
c'est ce que j'ai fait. Il y a une grande différence. C'est ce que j'ai fait à un moment, à la fin de mes 5 ans dans le Nord. C'est un moment où j'en pouvais plus trop. Globalement, j'ai pris une année de disponibilité, ce qui permet en fait de faire une parenthèse. On n'est pas rémunéré, on fait autre chose. Mais c'est très facile de demander sa réintégration si on le désire au terme d'un an ou deux ans ou trois ans. Et vous perdez pas votre statut de prof, quoi. Il y a des échelles dans le. Des grades. Si vous démissionnez, c'est fini.
Oui, c'est irréversible. Quoi.
C'est irréversible. Mmh. Ouais. Donc là, quand c'est des démissions dures, alors je pense que je ne sais pas exactement si c'est au bout de 5 ans, puisque je crois qu'il y a des contrats de 5 ans au début quand même, quand vous êtes fonctionnaire, mais c'est un signe important de lâchage du métier, de décrochage quand même des jeunes enseignants. Donc il se passe quelque chose de relativement grave, mais... quand on parle, par exemple, je dirais une chose, quand on parle sur la dernière réforme ou les dernières années de mutation du métier, c'est un euphémisme. C'est pas une mutation. On peut parler d'une forme de mutation sur une durée longue depuis la réforme ABI, par exemple. Hein, depuis, alors je ne sais pas maintenant, 50 ans, il y a eu progressivement, chaque fois qu'il y avait une réforme, alors de vaquet, machin truc, un pas en avant pour aboutir à ce à quoi Blanquer est en train d'aboutir, c'est-à-dire clairement la fin du statut de fonctionnaire, la privatisation d'une partie, l'école réellement à deux vitesses et pas simplement comme une formule ou un cliché. On est en train de là, c'est en train de se faire, c'est officiel maintenant, c'est en train de se faire. Mais cette avancée vers ça, vers une liquidation et pas une mutation, elle s'est faite progressivement. Hein. Blanquer, c'est une sorte de feu d'artifice final, en fait. Hein. Mmh. Chaque ministre qui est passé avançait un pion. Puis s'il y avait trop de manifestations, de réactions du corps enseignant, hop, il reculait un peu. Celui qui venait après réessayait avec un autre nom ou sous une autre forme, dans le même sens. Et puis si ça marchait pas encore, bon, c'était à l'époque où on obtenait un peu quelquefois des choses, donc il reculait, etc., etc. Puis là, ça fait quelques années qu'il ne recule plus, comme on sait. Et ce qui est en train de se passer dans l'éducation nationale, c'est tout bonnement ce qui s'est passé pour les postes, la poste, dans les années 90. Maintenant, il n'y a plus de fonctionnaires derrière les guichets, enfin, ceux qui restent des guichets, il n'y en a plus de guichets. Hein. Ils sont tous en train de courir comme des poulets sans tête pour essayer de gérer le truc, là. Et puis après, France Télécom, funeste histoire, puisqu'il y a eu quand même des suicides, hein. Et puis ensuite, la SNCF, ça c'est un gros morceau quand même, parce que si les cheminots, on se disait ça, tout le monde se disait ça, le jour où les cheminots craquent, alors là c'est fini. Dans le tact.
Oui, parce qu'en fait, ce que vous nous montrez aussi, c'est pas seulement la destruction d'un métier, c'est aussi comment dire, la destruction morale de ceux qui l'occupent. La figure du hamster, elle charrie aussi, elle charrie avec elle cette idée. Vous parliez de démission tout à l'heure, mais de démission intérieure, c'est-à-dire que une démission morale où on renonce finalement à ce que vous aviez dit, à changer les choses, puisque de toute façon rien n'est possible et on le sait. Et en fait, ça, vous le mettez en contraste avec ce que les vieux profs vous racontent. Les vieux profs qui vous disent, mais quand on s'était engagé dans l'éducation nationale à l'époque, on était venu chercher l'institution, chercher au sens de défier, c'est-à-dire avec cette volonté, dans une logique contestataire, quoi, avec cette volonté donc, de transformer les choses de l'intérieur, de transformer l'État, de le subvertir de l'intérieur. Et là, quand on vous lit, on constate aussi, du coup, l'échec de cette stratégie, ou alors en tout cas l'abandon de cette stratégie totale. Ce qui vous fait dire, par ailleurs, que les profs ne sont plus à gauche, quoi. Quand on dit qu'il y a cette rumeur, que les profs sont à gauche, mais en fait, cette rumeur est usurpée. Mais il se trouve qu'il fut un temps où, effectivement, les profs étaient à l'avant-garde des luttes sociales. Et ce n'est plus le cas, ce n'est plus un repère de gauchistes, quoi. Alors qu'à l'époque, on avait cette idée que l'éducation nationale est un repère de gauchistes. Et c'est ça qui est tragique dans ce que vous racontez. Plus que la destruction de l'institution en tant que telle, Enfin, de la, de, du, du, c'est vraiment la destruction du devenir révolutionnaire que les profs avaient historiquement en eux. Ouais.
Ou simplement critique, ou simplement émancipateur. Ouais. Hein. Mais ce n'est pas seulement du fait des profs, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, je crois, dans tout ce que vous racontez très bien. Pour un autre livre qui sortira au mois de septembre, je crois, à la rentrée chez POL, je me suis penchée sur les lendemains de 68 dans l'éducation nationale par le biais d'un fait divers en fait, qui s'est passé dans la petite ville où j'habite, qui s'est passé en 75-76. Une jeune prof de philo, de retour de mai 68, hein, militante OMLAC, donc au mouvement pour la libération de la contraception et de l'avortement, bien à gauche, etc., est mise au vert, plus ou moins, même si ce n'est pas officiel, donc dans le bled où j'habite, elle enseigne au lycée. Et puis on est en 75, donc tout est encore sur le déclin, mais un peu possible. Donc elle ouvre un local en centre-ville, ouvert. Elle propose des textes assez lycéens, Antonin Artaud, etc. Enfin, des choses un petit peu chaudes. Ça ne va pas aux notables de la ville, à certains notables, dont un procureur qui est farouchement opposé au droit à l'avortement. Et on finit par lui tomber dessus en l'accusant, en gros, de débaucher la jeunesse ou de, je ne sais plus, atteinte aux bonnes mœurs, je ne me souviens plus ce que c'était. Donc ça fait un scandale. La presse à scandale de l'époque, ici Paris, France Dimanche, pour les plus âgés, font des gros titres pendant une ou deux semaines. Il y a un procès, mais cette jeune femme qui vient de Paris connaît d'autres journalistes, Au Monde, Nouvelle Obs, etc. Bon. Et donc, elle établit un contre-feu et elle réussit à s'en sortir pas si mal. Mais enfin, quand même, elle n'est pas révoquée, ce qui est la mesure la plus grave. Mmh. Elle est suspendue, hein, suspendue avec traitement. Donc, c'est cette histoire que je raconte là dans ce livre qui s'appelle « La cavalière ». Et en travaillant pour ce livre, donc je suis allée d'abord essayer d'en m'entretenir avec les gens qui l'avaient plus ou moins connu, qui sont encore vivants. Et je me suis documentée aussi sur ce qui s'était passé dans l'éducation nationale immédiatement après 68. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une très forte répression de ces profs gauchistes-là. Hein. C'est-à-dire que tout ça a couru pendant 2-3 paires d'années, là, jusqu'en 73, 74, et puis après, tout cela, les vrais, hein, bon, hop là, on a trouvé le moyen soit de les révoquer, soit de les suspendre, avec ou sans traitement. Et même chose du côté des jeunes, des lycéens, et même ça atteignait le collège, hein, tellement le mouvement après 68, on était dans une société totalement différente où ça poussait à gauche comme ça, de partout. Hein. Donc il y avait une forme, on pouvait s'adosser à une ambiance générale qui allait de ce côté-là, du côté de l'émancipation, de la critique, de l'ouverture, etc. On n'était pas isolés quand on pensait ça. On ne passait pas pour des excités de service. Et à partir de 73-74, les comités d'action lycéens, tout ça, se sont fait liquider. Des classes entières se sont fait virer. Et on était renvoyés pour un tag sur le sol, quoi. Donc la répression a été quand même assez forte. Alors à ce moment-là, y a pas mal de profs qui étaient engagés, qui sont partis, ou ont été révoqués, ou ont démissionné, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus possible. Et puis certains ont essayé de continuer un peu, comme cette femme, Nelly Cavallero, et elle a été suspendue, elle a plus enseigné, alors que c'était quelqu'un qui aimait enseigner. Hein. Et ces enseignants-là, certains de ces enseignants qui ont dû partir, ou qui sont partis de leur propre choix, ont été amnistiés au moment en 81, au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir, et donc certains ont pu raccrocher le métier comme ça. Enfin bon, il y a eu cette phase, vous voyez, quand même de répression dure, hein, faut pas... Bon. Et puis le sentiment que j'ai, à tort ou à raison, hein, c'est que les enseignants sont globalement représentatifs de la population dans son ensemble, qu'à partir des années 80, il y a eu une forte dépolitisation, et qu'eux aussi sont rentrés dans ce rang-là, quoi, tout simplement. Ni plus ni moins que les autres. Donc, je suppose que si on faisait un sondage, je ne sais pas si ça a été fait sur les enseignants, vous auriez une petite proportion à l'extrême droite, sans problème. Hein, bon. Une petite proportion à l'extrême gauche, on va dire. Bon. Et puis au milieu, des gens qui pensent être de gauche, mais qui sont de droite.
Ouais.
C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les valeurs que porte l'éducation nationale, et qu'ils portent, les enseignants, le mérite, ce qu'on veut, hein, l'évaluationnite, etc., tout ça, c'est...
C'est pas vraiment des valeurs de gauche.
Quoi. Bah non, quand même pas.
Et donc, alors, donc l'envie... l'énergie révolutionnaire, enfin je dis révolutionnaire, c'est un énorme mot comme ça, mais bon, en tout cas de transformation ou d'émancipation, effectivement, alors semble tout à fait mort, puisque c'est un lieu comme ça qui a l'air d'être même, enfin je dirais même déserté par la vie en fait, tout simplement. C'est vraiment une espèce de... Enfin, vous insistez beaucoup sur la qualité physique des profs que vous rencontrez au début, et vous dites qu'ils sont tout blancs à chaque fois. Ils sont tout blancs, à plusieurs reprises. Mais vraiment, du coup, tout blancs, on a vraiment cette image de... Ils sont livides, quoi. Ils sont vidés de...
Exsangues.
Ouais, ils sont vidés de vitalité, quoi. Mmh. Et du coup, ça me fait penser à cette histoire de vie, enfin, de lieu qu'a déserté la vie. Ce qui fait que l'un de vos chapitres finit avec une interrogation d'un élève qui, en fait, nous laisse pantois parce qu'il dit « Mais au fait, madame, je ne sais plus exactement, mais quand est-ce qu'on va profiter de la vie, en fait ?»
Ouais.
Il pose une question comme ça. Et en fait, ça arrive à un moment, moi, ça m'a laissé pantoise parce que, précisément, tout ce que vous avez décrit avant, c'était vidé de ça. Et d'un coup, il pose cette question et on se dit « Ah ben oui, c'est vrai, au fait, la vie dans tout ça. » En fait, à quoi bon? À quel sens? Quel sens ça a, toute cette... toute cette histoire, toute cette affaire d'éducation, d'évaluation, de... Ouais. Donc, c'est pas une question, c'est juste une remarque. Mais alors, ce que je voulais dire, c'était que lorsqu'une énergie semble se réactiver à nouveau, elle se met au service, en fait, d'un espèce de logique auto-répressive, quoi, auto-liberticide. Vous parlez notamment, enfin c'est ce que vous évoquez avec cette affaire de devoir de réserve, qui est une loi que des profs s'inventent en fait, en pensant qu'ils sont soumis au devoir de réserve.
Pas seulement les profs, je pense que la plupart des gens pensent qu'il y a un droit de réserve des enseignants, mais ça n'existe pas. Dans l'armée, oui, je crois, hein, je pense, mais pas dans l'enseignement. Vous pouvez dire ce que vous pensez en dehors de, enfin devant les élèves, vous êtes censé ne pas militer. Ce que je peux comprendre, hein. Il y a des manières de toute façon beaucoup plus progressives et sensibles de faire sentir les choses, de faire sentir cette absence de sens.
Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un zèle de la domestication, enfin, il y a un zèle aussi dans ce sens, qui va dans ce sens-là.
Bah, il y a un zèle parce que tout simplement, la plupart, pas tous, hein, mais la plupart des enseignants sont d'anciens bons élèves. Hein. Donc, le personnel qui arrive là est tout prêt à en faire un peu plus que ce qu'on lui demande, donc à être un peu plus répressif, un peu plus s'auto-censurant, un peu plus prudent, un peu plus tout ce qu'on veut. C'est pour ça que c'est vraiment, je crois, un corps de métier idéal pour ce qu'on est en train de vivre, où le néolibéralisme peut rentrer son doigt dans un truc qui va épouser le doigt, quoi, hein, qui va pas faire aïe, mais qui est tout prêt à épouser le doigt et à lui faire un petit coussin pour qu'il puisse aller encore plus loin dans sa pénétration. Bon.
Alors ouais. Cette image, l'image donc de la, comment dire, de la domestication intériorisée, vous en dessinez comme une espèce de parabole. Avec cette scène sur les élèves en îlot, c'est les fameuses bonnes feuilles qui ont été publiées dans le monde diplomatique. Les élèves en îlot, donc c'était pour illustrer la nouvelle politique, enfin liée à l'autonomie. Bon, bah, c'est un mot que vous ridiculisez, comme d'autres mots qui arrivent comme ça, qui débarquent un beau jour. Bah, comme
c'est un mot complètement capté, confisqué par le néolibéralisme, des mots de gauche. Évidemment que l'autonomie, c'est plutôt... Oui. Ah, vous avez fait une émission il n'y a pas longtemps avec Léna. Bon, c'est comme ils n'ont pas beaucoup d'idées, ils pompent les mots qui viennent de la gauche et ils les dénaturent profondément.
Et du coup, vous montrez avec cette scène-là que l'autonomie, finalement, c'est juste l'enseignement de l'autorépression, de la surveillance entre soi, de montrer qu'en fait, que les élèves qui sont donc posés en îlot, qui sont installés en îlot, entre eux, du coup, n'ont plus besoin du professeur pour les surveiller, puisqu'en fait, ils le font très bien eux-mêmes. En
Seul.
fait, on leur enseigne à faire ça. Et en fait, cette image, elle est, comment dire, elle est représentative, tout simplement, de ce que c'est que le règne néolibéral, en fait, pour l'ensemble d'une société. Parce que c'est comme ça que ça se passe, avec cette obsession, comme ça, de l'individu, et de sa pleine souveraineté, etc. Donc, avec cette volonté d'éclater aussi toutes les logiques collectives, de manière à insister beaucoup sur la liberté individuelle, etc., etc. Et donc, cette image-là de l'îlot, je l'ai trouvée vraiment très, très forte pour représenter ce que c'est qu'une logique néolibérale.
Tout à fait. Le truc de l'îlot, c'est que, évidemment, c'est lointainement hein, une idée qui vient d'émancipation, qui vient de Freinet, peut-être de Ferrer, enfin des grands pédagogues libertaires, hein, au fond, en tout cas pour l'école émancipée, l'école ouverte, c'est l'idée que les enfants peuvent s'enseigner entre eux, mutualiser les savoirs, etc. Super, pas de problème, hein. Sauf que ça n'arrivait pas tout seul dans leurs propositions pédagogiques. Ça arrivait dans un ensemble cohérent, où ce n'était pas la seule chose, vous voyez, à mettre en jeu, et puis où il y avait un objectif, il y avait un but final, il y avait un sens à tout ça, quoi. C'est pas juste pour qu'ils bossent, ils arrivent à bosser voilà, sans trop s'ennuyer ou je ne sais trop quoi. Et ce sens-là, global, articulé, rationnel, pensé, sensible, bah, le néolibéralisme n'en a que faire. Il ne veut pas ça. C'est pas son, comment dire, il y a pas de bénéf pour lui là-dedans. Hein. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste des petits morceaux comme ça qui se trimballent, des morceaux d'idées, de recettes, c'est ça, de bouts de machin qui viennent, alors, je ne sais pas quoi, Montessori, Freinet, machin, personne ne sait plus, de toute façon, personne ne sait. Puis ça s'appelle, oui, alternatif, je ne sais pas quoi, parce que ça fait trop chouette. Et en fait, les îlots, c'est juste quoi? C'est juste ce qu'on fait avec l'ameublement qu'on a. On a des tables de deux. Vous collez les tables de deux face à face, ça fait quatre. C'est ça, l'îlot. C'est juste ça. Hein, on fait ça avec on a quoi? On a notre petite salle, ils sont 30 dans notre petite salle. OK? Voilà, il y a les chaises en bois, là, toujours les mêmes. Ils sont, je ne sais plus combien, 8 heures par jour dessus, là, ou 7 heures par jour dessus. Allez, on va un peu lui distraire en les mettant ensemble. Et voilà, en collant, comme un puzzle, les tables. Voilà ce qui reste des grands projets. Émancipateur de la fin du 19e et du début du 20e.
Alors, il y a aussi une logique policière que vous décrivez, notamment avec ce verbe guetter, faire court et guetter, faire une dictée et guetter.
Ça, c'est l'expérience du prof. Hein.
Ouais.
Alors là, parce que des fois, des lecteurs ou des amis me disent, oui, mais toi, comment tu fais? Je dis, mais je raconte comment je fais. Je suis pas, en fait, le truc, c'est que dans ce livre, je suis pas spécialement, je crois pas, en tout cas, j'ai pas essayé de me gâter, quoi. Je suis dans le système depuis 30 ans, donc je me suis adaptée.
Donc c'est inhérent de
Ah,
toute façon
c'est
à votre poste,
inhérent,
quoi.
bah, vous êtes prof devant cette salle de 30, là, et bah, il faut pas que ce soit le bordel. Hein, parce que ça, oh, ça, le bordel, ça, surtout pas. Angoisse du bordel. C'est fascinant ce truc d'angoisse du bordel. Je pense d'ailleurs que les îlots, c'est fait aussi contre ça. Et donc, ben, vous avez toujours l'œil du flic qui est un peu
Ouais.
dedans. Hein, voilà, vous surveillez que, nanana, ils font leur boulot, vous échangez avec eux, sympa et tout, mais en même temps, vous surveillez tout le temps. Il y a une espèce de double posture hein, qui est vraiment intéressante. Hein, ouais.
Alors ça, justement, moi, j'ai pas pu ne pas m'empêcher de penser à ces épisodes récents d'enfants, en fait, qui ont été livrés à la police par leur établissement. Je dis leur établissement parce que On ne peut pas tout à fait dire que c'est leurs professeurs qui les ont livrés à la police. C'était après les attentats donc, de Charlie Hebdo et puis après l'assassinat de Samuel Paty. C'est pas les professeurs, mais en tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une espèce de chaîne administrative comme ça qui marche au pas. Donc le professeur fait un signalement, qui du coup, le proviseur, nanana, et puis en fait, tout de suite, le ministère est prévenu et on se retrouve face à une situation sidérante, en tout cas pour des personnes saines d'esprit, c'est une situation sidérante que des enfants ont été livrés à la police par l'école.
Ouais.
Et là, on a envie de se poser la question, une question que vous posez un moment pour montrer le ridicule en fait, de cette affaire, enfin, le caractère absurde en fait. Vous dites à la fin d'un chapitre, c'est quoi l'erreur? C'est quoi l'erreur? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là?
Et
cette question, là, clairement, elle s'est posée... après ces événements, c'est quoi l'erreur? Et on s'est posé cette question.
Ouais. Et moi, je pense que ça vient, je crois hein, que ça vient de plus loin. Comme j'ai commencé il y a pas mal de temps maintenant, j'ai connu au moins une décennie, et à mon avis plus, où je pense n'avoir jamais vu un flic dans l'école, dans les établissements. Et je suis passée dans une demi-douzaine d'établissements, hein, avant d'arriver dans l'établissement où j'enseigne depuis une bonne vingtaine d'années. J'ai fait 2 établissements dans le Nord, j'en ai fait 3 dans le Maine-et-Loire, un à Lisbonne pendant mon année de disponibilité, etc. Bon, donc j'en ai fait plusieurs dans au moins 2 régions différentes. Je ne me souviens pas d'avoir jamais vu la police dans l'établissement. Ou alors, il faisait gaffe de ne pas se montrer. Hein. Et là, depuis une bonne quinzaine d'années, hein, vous voyez, j'ai du mal avec les années, la mémoire, les chiffres et tout, mais au moins une quinzaine d'années, ils rentrent comme dans un moulin. Régulièrement, on passe par la loge où, et hop, là, on les croise, ils viennent discuter avec le chef d'établissement. Je signale que je suis dans un collège de province d'une toute petite ville
où
personne ne sniffe je ne sais quoi dans les toilettes. Enfin bon, il n'y a pas de dans cet établissement-là. Je n'ai jamais entendu parler, par exemple, de problèmes de drogue ou de trucs comme ça. C'est un collège, bon, très tranquille, centre-ville, enfin bon, voilà. Mais bah, ils rentrent, ils discutent, je ne sais pas quoi, de ce qu'ils discutent de la radicalisation de je ne sais pas qui, je ne sais rien, je ne sais pas, je ne vois personne radicalisé depuis très longtemps, enfin voilà quoi. Et donc il y a une habitude comme ça de la circulation et de l'entrée vraiment de la police dans les établissements scolaires, comme si tout était normal et naturel, ce que ça n'est pas, ou en tout cas ce que ça n'était pas pendant très très longtemps quoi. Donc on s'y est habitué d'abord. Il y a ça quand même, hein. Aller voir, circuler, entrer. Ouais. Par exemple, je raconte un épisode, mais ça c'est autre chose. En quatrième, les petits vénards de quatrième ont 2 interventions qui viennent de l'extérieur pour l'information dite sexuelle ou la dite information sexuelle, je ne sais pas, mettez 28 guillemets. Hein. Et puis, ils en ont une autre sur les drogues. Alors là, ceux qui ne savent pas, à la fin, ils savent. Hein. Ils ont tout le répertoire. Hein. Voilà, bon, les effets, le nom, qui l'a inventé, ce qu'ils risquent, s'ils en prennent ou s'ils sont pris avec. Bon, voilà, bon, tous ceux qui ne savaient pas le savent. C'est un peu le système, vous savez, dans l'éducation, chez les cathos, à la confession. Hein. Si vous ne saviez pas ce que... Bah, à la fin, vous savez, parce qu'ils ont tout le répertoire. Hein. C'est un peu le même système. Là, c'est un policier qui vient le faire depuis très très longtemps. Toujours le même, qui débarque en costume, là. Et puis qui fait un cirque pas possible. Moi, les petits gars, je sais ce que c'est que la drogue, je vous expliquais tout. Voilà. Tranquille, ça fait très longtemps qu'il fait ça. Hein.
Ah oui, c'est un flic qui fait la
prévention. C'est la flic qui vient, qui fait la prévention contre la drogue. Enfin, voilà, c'est un truc, donc c'est les choses se... Et le problème, c'est souvent, c'est que c'est le défaut de transmission globale et de mémoire des établissements. Ça, je crois que j'en parle à un moment en particulier sur les écoles des beaux-arts, parce qu'il m'est arrivé comme écrivain d'aller faire des ateliers, des interventions, des choses comme ça dans les écoles des beaux-arts. Et c'est des établissements très intéressants parce qu'ils ont changé très, très vite sur les dernières années. Quand j'allais au début dans une école, au début, je dis il y a 20-25 ans, dans une école des beaux-arts, c'était une école où on croisait des gens qui avaient 18 ans, des gens qui avaient 30-40 ans, qui avaient déjà un parcours derrière eux. Et il y avait beaucoup de gens très différents qui venaient là pour travailler, passer le diplôme, etc. Et c'était très ouvert. On pouvait rester le soir assez tard, faire des fêtes, circuler dans les ateliers. C'était vraiment, pour moi, hein, c'était peut-être le seul type d'établissement où quand on était un peu perdu ou qu'on savait pas vraiment comment enchaîner après, quand on était jeune, on avait le temps, on pouvait prendre le temps de réfléchir, d'être soutenu, d'être absent ou présent, quelque chose d'assez libre, d'assez libre en fait, hein, il y a une bonne vingtaine d'années. Puis là, ça c'est, alors depuis le protocole de Bologne, je vous passe les détails, une dizaine d'années peut-être, ça s'est aligné sur l'université, et alors là, ça y est, c'est devenu le scolaire avec un grand SC, quoi. C'est-à-dire que tout le monde est surveillé, on note les absents, ce qui est hallucinant de noter les absents après le bac, quoi. Bon, moi, j'ai connu une période où on ne les notait pas. Et vous voyez, la mémoire de l'établissement, comme elle n'est pas transmise suffisamment, du coup, alors, ceux qui arrivent, l'école leur dit « Ah non, 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 ça, c'est interdit depuis toujours. Hein. Ah non, non, les fêtes et tout jusqu'à 22 heures, il n'y a jamais eu. Hein. » Et si vous posez des questions aux plus anciens, ne serait-ce qu'à ceux qui sont en cinquième année, là, ils vous disent « Mais c'est pas vrai. » Quand je suis arrivée, on pouvait se réunir, travailler le soir jusqu'à 21h, 22h, on n'avait pas de problème, on n'y avait pas de badge, on n'était pas obligé de. Les ateliers n'étaient pas fermés entre eux, on pouvait circuler dans les ateliers. Tout ça, tout ce qu'ils vous disent, là, ce n'est pas vrai. D'où cette nécessité, il y aurait une nécessité de transmettre une mémoire des établissements, parce que ça change très vite et que les administrations ont tendance à faire croire que ça a été comme ça depuis toujours, de toute éternité, ce qui est faux.
Ben oui, en fait, il suffit que les élèves se renouvellent pour qu'il n'y ait pas de lien. Tout à fait. Ouais. Et vous avez parlé des absents, de compter les absents, ce qui, du coup, me fait penser à une expression que vous avez qui peut faire office de concept politique, je dirais, qui est celui de paresse impersonnelle.
Ouais.
Pour parler donc de ce phénomène de l'absentéisme, donc, mais qu'on peut peut-être élargir à la question de l'abstention.
Tout à fait.
Pour parler donc de l'absentéisme Donc la logique consisterait donc à refuser à faire porter le poids de la responsabilité sur les individus qui ne se sont levés, qui ont des mauvaises excuses, donc de ne pas être venus, mais plutôt sur un dysfonctionnement structurel, en fait. Vous dites à un moment donné, quand il y a la moitié de la classe qui ne vient pas, ce n'est pas de la faute de la moitié de la classe qui n'est pas venue, en fait.
Ce ne sont pas des paresses personnelles. Ouais. Ce n'est pas parce que machin est malade, enfin, quelle que soit l'excuse que... justifié ou pas qu'on va trouver, hein, c'est toujours un peu les mêmes. Le répertoire est toujours le même. Hein,
Et c'est comme pour ceux qui s'abstiennent.
Mais donc oui, le fait d'avancer une paresse impersonnelle permet de se poser une question beaucoup plus... De se poser vraiment la question. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils n'ont pas envie de venir? Pourquoi ils s'abstiennent? D'où le raccord avec l'abstention. Ce qui est la question finale, la question terminale de ce stade de la dite démocratie. Et bien sûr, l'enjeu, c'est de surtout pas se poser cette question et de tout renvoyer à l'individu. Mais il me semble qu'on est dans cette question et que cette question a émergé clairement, politiquement, au moins à partir des Nuits debout. Si on se renvoie à une période politique récente, hein, je ne retourne pas dans les années 60, ça c'est autre chose, où il y avait une vraie position de refus. Et en littérature, il y avait des vraies positions intellectuelles et tout ça, des vraies positions de refus total. Blanchot, c'était non, point. C'était pas non, virgule. Donc, il y a eu quand même des périodes où c'était un refus total de participer à la société telle qu'elle est, en clair, hein, et de vouloir tout refaire, ou en tout cas, ce qui... Bon. Et là, moi, il me semble qu'on a... On n'a pas réarticulé avec les années 60, parce que c'est trop loin et qu'il y a une amnésie. Hein. On est amnésié, quoi. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu une amnésie, mais on est amnésié, quoi qu'il arrive. Mais à partir des Nuits debout, donc il y a 5 ans maintenant, ou en tout cas bientôt 5 ans, ça, c'est revenu. Un peu différemment, hein, mais dans le fait de ne pas vouloir participer, ne pas fournir de porte-parole, ne pas fournir de leader. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, une vraie fin de non-recevoir par rapport à, je ne sais pas, par exemple, la mairie de Paris, le gouvernement, l'État, etc. C'est bien ça qui, à ce moment-là, s'est avéré un peu menaçant pour l'État, si on se reporte à ces années récentes. Et puis les Gilets jaunes, d'une autre manière, ben, ils ont repris ça, hein, que ce soit conscient ou inconscient, peu importe. Et si c'est inconscient, tant mieux, parce que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de solide et qui continue dans une partie de la société française. Hein. C'est non, toujours pas de... Les quelques figures, là, c'est des trucs... Ce n'est pas des porte-paroles, ce n'est pas des leaders, c'est autre chose. Hein. Bon. Pas de porte-parole, pas de leader, pas réellement de manifeste ou de je sais pas quoi, pas de revendication. Enfin, au début, il y avait la revendication, évidemment, la taxe, là. Hein. C'est tout, les révolutions commencent souvent avec une histoire d'impôt. Hein, bon. mais après, ça a sauté, ça. C'est devenu beaucoup plus global. Donc, il me semble qu'on est entré quand même dans une période où on en est là. Cette question-là... de la non-participation, d'où, de fait, la reprise en main, la tentative de reprise en main immédiate des mairies, du pouvoir et tout, pour faire du citoyennisme à la petite semaine, en fait. Ça reprenait, ça. Oh là, non, faites pas sans nous, s'il vous plaît, pitié, quoi. Hein. On va vous organiser des petits comités de quartier, là. Hein. Là où je suis, hein, il y a eu tout de suite après les Nuits debout, je me souviens, c'était en juillet, hein, ils n'ont pas attendu, hein. Alors, ils ont mobilisé un petit comité de quartier, machin, sympa, chouette et tout. J'y suis allée pour voir comment ça se passait.
C'est la ville qui a fait ça.
C'était dans les... Alors, non, pas officiellement, Pas officiellement. Pas encore officiellement, à l'époque. Mais il y avait un petit employé de mairie qui était là, qui prenait des notes, qui n'avait pas dit qu'il était employé de mairie. Hein, bon. Et puis, on était censé brandir des post-it, là, pour faire style... qu'on est là et que voilà. Vous voyez ce que je veux dire,
que la démocratie fonctionne,
qu'il n'y a pas de souci. D'où la multiplication de tous les trucs citoyennistes machin, bon, qui essayaient de colmater la brèche là, mais elle n'est pas prête d'être colmatée. Hein. Je pense qu'on a vraiment là avancé quelque chose d'intéressant, qui vraiment pose la question du sens de ce qu'on fait, quoi, du sens de cette participation. Et du sens de ce refus de participer dans ces conditions-là. Ça, il ne faut pas le lâcher. Et si jamais on fait autre chose de mieux que commémorer la commune, c'est, à mon sens, il faudra repartir de ça.
Alors justement, vous avez, comme dans tous les livres que vous écrivez, une réflexion sur la littérature, sur la poésie. Et là, ce que vous pointez, j'allais dire ce que vous dénoncez, mais le mot dénoncer, ça a une emphase qui ne vous correspond pas, en fait. Mais en tout cas, ce que vous pointez du doigt, on va dire, c'est cette façon de domestiquer la littérature, de la neutraliser, de neutraliser son pouvoir subversif. Et vous finissez, en fait, votre livre sur la question de la poésie. Et notamment du printemps des poètes, poésie donc qui a été cantonnée comme ça au printemps, avec l'opération printemps des poètes. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous reprochez au printemps des poètes, à une opération comme le printemps des poètes?
Printemps des poètes, c'est exactement dans la lignée de tout ce qu'on a dit. C'est on fait un petit bout là dans l'année et puis on coupe du reste. Hein. On n'articule pas avec le reste, surtout pas. Hein. C'est comme les îlots, voilà. On a un petit îlot poétique dans l'année, sympathique, qui promeut, pas toujours, mais bon, en règle générale, une poésie sympathique et chouette et printanière. Hein. Alors qu'il faut ouvrir les vannes. Il faut vraiment... je suis pas là... on est plein à essayer de le faire, mais ce livre-là en est un exemple. C'est-à-dire que il y a des... Alors, ce n'est pas des vers, hein, c'est en fait une forme de... J'ai choisi une forme de... J'ai finalement fini par choisir, parce que je ne vous raconte pas comment j'ai galéré. Une forme
oui,
de,
je me suis demandé comment
ouais.
c'était
Comment c'était
coupé.
venu?
Bah, comment le texte était coupé, parce qu'effectivement, c'est pas un texte.
Ça se suit pas, hein,
Ouais.
pour que
Mais c'est
les, que
pas des vers non
les.
plus, effectivement.
C'est pas des vers, c'est une prose qui est coupée à certains moments,
Ouais.
alors qui n'est pas coupée à n'importe quel moment, au sens où, si vous regardez bien, tous les mots qui viennent en bout de ligne n'appartiennent jamais. Il y a peut-être deux exceptions, je crois, hein, à la même classe grammaticale. C'est-à-dire que vous avez un verbe, après vous avez un nom, après vous avez une préposition, après vous avez une conjonction, après, etc., autre chose. Alors, pas pour faire style ou je sais pas quoi. Hein.
Bravo.
C'est juste que c'était le moyen de placer les grands mots comme les noms et les verbes exactement au même niveau que que le petit personnel, c'est-à-dire les petits mots, les conjonctions, les prépositions et tout ça, que
Petites
ça soit une
apostrophes.
espèce de. Alors, on peut y voir aussi quelque chose d'un peu ironique, mais qu'il y ait un espace démocratique dans ce livre-là qui se passe au niveau des classes grammaticales, à défaut d'être dans les classes
Sociales.
sociales. Et y a, ça, c'est une première chose. Et puis aussi, le texte a eu une version dont rencontrent les pages du Monde Diplo, qui n'est pas coupée, hein.
Ouais, tout à fait.
Une version beaucoup plus à la ligne, fluide, fluide, coulante, courante, etc. Mais je trouvais que ça n'allait pas, parce que le texte n'est pas quelque chose de courant et qui va de soi. Ce que ça raconte, ça va pas de soi. Rien ne va de soi dedans. Ça va pas de soi dans l'éducation nationale. Et je crois que l'écriture commence quand ça va pas de soi. Quand il y a de l'embarras, de l'empêchement,
Et qu'on
quand
s'arrête en
ça
fait.
marche pas, quand c'est coupé, quand c'est cassé, quoi. Et donc, j'ai essayé l'écriture du texte essaye de rendre compte de ça, que ça marche pas comme sur des roulettes ou comme dans une roue. C'est ça, ce choix-là de prose coupée dans ce texte-là.
Alors pour revenir à votre approche de la littérature, vous ridiculisez une façon aussi de consommer la littérature, vous appelez la littérature pâtissière, de la consommer ou alors de la muséifier, c'est ce que vous venez dire à des fins commémoratives donc, ou à des fins réparatrices, ou même encore à des fins patriotiques. Je vais lire un passage qui est l'un de mes préférés. Mais je vais lire un passage parce qu'il est extrêmement représentatif de cette idée. Alors, sous ce rapport, il n'y a plus de rapport entre ces passages et ce qui se passe. Mais il suffit de lire ailleurs qu'à la mairie, ailleurs qu'à l'école ou au collège. Il y a des endroits où il est important de ne pas lire, comme les écoles, les collèges, les lycées, les mairies ou les théâtres. Tous les endroits où on prépare des examens et où on prépare à goûter, où on se prépare à goûter de la littérature. Ce n'est pas seulement que ça en tue ou affaiblit quelque chose de la littérature et de tout le reste, surtout de tout le reste, c'est que ce sont des lieux amortis. À l'intérieur de ces lieux amortis, au cœur même de l'amorti, il est parfois possible de lire demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Et là, en fait, vous montrez vraiment comment, même en fait, dans un dispositif de domestication, quoi, tel que l'éducation nationale, il y a de la place pour des œuvres comme ça, des œuvres transgressives, mais c'est que elles sont neutralisées par le dispositif qui est mis en place. Et d'ailleurs, vous avez cette phrase ailleurs où vous dites, mais parce que le lieu l'emporte toujours, l'institution l'emporte toujours.
Oui, ben j'en ai fait maintes fois l'expérience. Et il n'y a pas si longtemps que ça, donc dans l'établissement où j'enseigne, en fait, la ville où je suis est une ville où débutent Les Misérables de Victor Hugo. Le moment où Jean Valjean arrive et où il est provisoirement sauvé par Monseigneur Myriel, hein, ça se passe dans cette ville-là. Et donc, il y a quelques années, la mairie se dit, on va mettre une plaque. Une plaque en l'honneur de Monseigneur Machin, qui était dans cette ville, et en l'honneur de Victor Hugo. Alors, qui dit plaque, qui dit mairie, qui dit gna 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 gna, et qui dit une classe au moins, ou quelques élèves, là, qui vont venir animer un peu la pose de la plaque en disant du Victor Hugo. OK. Les Misérables. Super. On va choisir un passage émeutier. Il y en a, non? Gavroche, etc. Bon, allez, bon, je prépare quelques élèves. Et puis, il y avait aussi une collègue à lire, à dire hein, ce passage très émeutier. Enfin, bon, voilà, quoi, un passage révolutionnaire pour le coup. Hein. Et donc, les élèves montent sur... Alors là, c'était dans une salle de la mairie, grande salle, nanana, les petits fours, les machins, les trucs. Les gosses montent sur le style quatrième, montent sur l'estrade, commencent à... Bon, le son était... Enfin bon, bref, il y avait des problèmes techniques, mais ça, hein, ça bricole de tous les côtés, c'est pas grave. Ça n'a rien donné. C'est juste les parents qui étaient là, les adultes qui étaient là, vérifiaient s'ils lisaient bien. Est-ce qu'ils avaient un bon niveau en lecture? C'était ça l'important. Hein, oh, qu'est-ce qu'il lit bien! Mais alors, ce qui était raconté, pouf, c'est passé au-dessous du niveau de la mer. Hein. C'est ça qui est génial. C'est que vous pouvez, dans un contexte comme ça, appeler à l'émeute, personne ne va piger. C'est ça, qui, c'est ça ce truc d'amortissement de la force de la littérature.
D'où cette phrase vraiment que j'aime beaucoup. Hein. Il y a des endroits où il est important de ne pas lire.
Oui.
Il y a des endroits où il est important de ne pas lire.
Oui, oui. Enfin, il y a un truc, c'est que c'est la fête du livre. Là, il paraît que les libraires ont très peu perdu de chiffre d'affaires dans toute cette histoire tragique pour le voilà. Le théâtre, le cinéma, tout ce qu'on veut, les livres auraient été sauvés. Hein. Lesquels? Lesquels? Pourquoi?
Alors, je me suis aussi, comment dire, intéressée au style de ce que vous écrivez. Et alors, c'est pas nouveau, hein, je veux dire, vous écrivez à la lisière d'une certaine familiarité. Donc, voilà, vous n'hésitez pas à employer... des mots de l'argot, un langage très, très oral, très contemporain, et des mots comme meuf, viteuf, comas. Et c'est pas, comment dire, c'est pas artificiel. Je veux dire, on n'a pas le sentiment... C'est bien fait, quoi. On n'a pas le sentiment que vous avez comme
claqué,
ça...
Hein.
Ouais, ou même juste saupoudré de manière un peu à encanailler le texte, quoi.
Ouais.
Il y a quelque chose qui est assez naturel, qui me semble fluide. Et du coup, je me suis demandé, parce que... Ça jure, en fait, avec votre parcours, parce que c'est un parcours précisément d'une bonne élève, quoi, qui passe en plus par une classe prépa. Donc, les classes prépa, on sait comme ça formate un certain rapport à la langue. Et du coup, j'aurais aimé savoir si ce que vous développez, donc effectivement, ce que vous développez est le fruit forcément d'un désapprentissage que vous avez eu à faire. Et j'aurais aimé en savoir plus de ce désapprentissage. Comment il a eu lieu, est-ce que c'est une épreuve, est-ce que c'est naturel chez vous?
Pour quelqu'un comme moi, on n'arrête pas de désapprendre. Hein. Je suis au milieu du guet, là. En fait, ce choix particulier, enfin, plus affirmé dans ce texte-là de l'oralité, ça vient aussi du fait que le livre reprend pas mal d'anecdotes, de faits que j'ai racontés pendant des années, des choses qui m'ont marqué dans mon parcours, dans mon passé scolaire ou dans personnel ou dans mon parcours dans l'éducation nationale, que j'ai raconté à des amis, à la famille, à plein de gens comme ça. Et en fait, alors, ça garde cette oralité-là. Il y a des tirés au début aussi, parce que je me suis dit, c'est comme si je m'auto-interviewais d'une certaine manière. Hein. Donc, ça a gardé ce côté-là. Et puis aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas, ce que je disais tout au début de l'émission, c'est pas que moi qui parle. C'est d'autres voix par
oui,
moi.
D'accord.
C'est la voix de l'enfant, de l'adolescente que j'ai été. C'est la voix des élèves plus récents que j'ai rencontrés ou à qui j'ai enseigné, à qui j'ai pu enseigner. C'est la voix de personnes très importantes pour moi dans le livre, qui ne sont pas du tout enseignants, qui sont plutôt voilà, dans des petits métiers, les métiers, comme on disait, essentiels, là, quand on avait besoin d'eux, hein, caissiers, etc., que j'ai écoutés et qui sont désemparés par... l'éducation nationale, l'orientation de leurs enfants, qui ne comprennent plus comment leurs enfants, ce que vont devenir leurs enfants dans ce système-là, dans ces réformes-là. Désemparés. Et donc, eux aussi parlent avec leur voix, avec leurs mots aussi. Ce ne sont pas que mes mots. Et, et puis, plus au-delà de ça, la littérature, c'est de mal écrire. Beckett écrit mal. Je ne me compare pas, hein. Attention. tous les gens que j'aime écrivent mal.
C'est très dur d'écrire mal. Très difficile.
C'est difficile, il faut travailler beaucoup. Parce que sinon, on écrit bien et c'est une catastrophe. je racontais...
Mais aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi mal écrire. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça passe à côté, que ça fasse une caricature de l'écriture mal à la Beckett.
Oui, ouais, bah, les écrivains qui écrivent mal écrit dans le mal écrit, c'est... Enfin, pour moi, comment dire? La clé du truc, c'est quand on se regarde écrire.
Et donc ça, c'est pas bon.
Ça, c'est dramatique. Alors, on peut se regarder bien écrire. Jean d'Ormesson, par exemple, se regarde bien écrire. Merveilleux. Alors, il se regarde tout le temps, et donc on finit par sentir qu'il se regarde. C'est un peu gênant. Quand je tombe sur des romans ou des livres où on sent que le mec ou la nana se regarde écrire, je suis gênée, quoi. Parce que je ne peux pas continuer. J'ai un peu la honte, quoi. Et puis, ça peut se passer aussi quand il y a une espèce de volonté de faire écrit avec les mots d'aujourd'hui ou je ne sais pas quoi. Ouais. Là aussi, on se regarde écrire différemment. Et à chaque fois, pour moi, en tant que lectrice, c'est la honte, quoi. Donc, j'espère... voilà. Le premier truc, c'est, oui, d'échapper à ça. Et peut-être justement que le fait de laisser parler d'autres voix là-dedans, ça permet de prendre un peu la distance par rapport à cet autre statut qui est le statut de l'auteur. Alors, c'est pas parce qu'on met auteur-e à la fin ou autrice-e que ça ne repose pas, qu'on ne devrait pas se reposer le problème du statut de l'auteur. Hein. Moi, c'est toujours un souci, ça. Hein.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Si on se prend vraiment pour un auteur, je crains qu'on se regarde un peu écrire des fois, quoi. Donc,
qu'est-ce que ce serait donc d'écrire?
Je suis toujours, vous savez, c'est toujours le problème du statut, quoi. Quand on me demande régulièrement de dire, alors, qu'est-ce qu'on met après votre nom? On met écrivain, écrivaine, auteur, autrice, je sais pas quoi. Pour faire plaisir, quoi. Je dis, bon, vous n'avez qu'à mettre ça, ce que vous voulez. Pendant assez longtemps, quand c'était des gens, je me souviens, c'était des gens qui pensaient que j'étais pas poète et qui pensaient qu'eux étaient du côté de la poésie et pas moi. Pour les emmerder, je disais, mettez poète. Vous voyez? Bon, pour les emmerder, c'est tout. Mais non, ça, c'est des trucs, c'est des espèces de surfaces sociales qui correspondent peut-être pas à grand-chose quand on fait quoi? Ce type de littérature, c'est entre l'art et l'artisanat. C'est un truc en plus, quoi. Je ne suis pas tout le temps écrivain, là. Même là, je fais quoi? Je fais autre chose, quoi. J'enseigne un peu, je fais ci, je fais ça. Je ne sais pas. Ce qui m'ennuie, c'est pareil que le statut d'enseignant, au fond. C'est la cristallisation, la fossilisation dans un truc. Vous finissez par croire ce qu'on vous dit. Vous finissez réellement par croire que vous êtes écrivain. Et alors après, vous faites quoi? Vous aboutissez à l'Académie française, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le cap, il est passé là, quand vous croyez ce qu'on vous dit, quoi.
Ouais. Et ça a forcément des conséquences sur la manière d'écrire, en tant qu'écrivain. Ou d'écrire
ouais.
En écrivant, tout simplement.
Ouais, parce que ça se mord la queue en même temps. Hein. Ce que vous écrivez vous permet d'être sollicité pour avoir tel prix littéraire ou je ne sais pas quoi. Et puis le prix littéraire valide cette écriture-là. Et donc, ça c'est une roue aussi. Ouais. Hein. Bon.
Non mais en fait, je dis ça en tant que posture morale parce qu'il m'a semblé aussi que dans l'humour, donc vous faites usage. Alors je ne sais pas si l'humour c'est quelque chose que vous travaillez ou pas déjà. Ou est-ce que
je vais dire un truc énorme, c'est comme le fait que j'ai les cheveux de cette couleur, ils ont cette couleur, quoi.
C'est un trait d'esprit, quoi.
Je sais pas faire
vous
autrement.
Vous dites pas, je vais faire là, à ce moment-là, je vais faire rire mon lecteur, quoi.
Même juste une courte anecdote, le premier livre que j'ai sorti en 97 qui s'appelait Remarques, pour moi, n'était pas spécialement humoristique. C'était des toutes petites phrases comme ça qui rendaient compte d'expérience. Et la première fois que je l'ai lu en public, les gens ont ri. Je me suis dit, mince.
Et ça suscite quoi justement comme réaction? Parce que je suppose que même, enfin que plein de lecteurs vous le disent, qu'en fait ils
trouvent drôle. Je sais que ça les amuse,
Est-ce que c'est une réaction qui vous plaît de provoquer?
Bien sûr.
Le sachant.
Ah oui, j'adore Swift. J'adore La Modeste Proposition. Oui, voilà, où il propose de manger les enfants pour compenser la famine en Irlande. J'adore ce texte. C'est un goût aussi de ce type de littérature. J'adore Lautréamont, Ducasse, avec cette espèce d'humour terrible, noir, foncé, tout ce qu'on veut. J'adore l'anthologie de l'humour. Enfin, voilà, de l'anthologie de l'humour noir. C'est une mine encore aujourd'hui pour trouver des textes. Ouais, c'est mon goût, c'est l'un de mes goûts profonds. Hein. Donc du coup, ça a dû infuser, je ne sais pas comment, et puis ça ressort comme ça, sous cette forme-là. Mais c'est important pour moi, ouais. Ouais.
Mais du coup, cet humour, moi, je me suis demandé si c'était pas... Mais, et là, j'ai l'impression que ça me confirme dans ce que vous dites. Si ce n'était pas aussi un refus, du coup, du... Comment dire? En fait, un refus de... d'édifier une parole, en fait. D'édifier au sens... Enfin, une parole stabilisée, comme ça, claire, qui est... qui peut être perçu comme allons disons comme un geste institutionnel en fait comme un geste comme ça lourd quoi et que en fait pour c'est une crainte en fait en vous que en fait vous êtes drôle parce que ça vous empêche de faire ça de tomber dans cette emphase comme ça des grands monuments quoi des grandes phrases parce qu'on voit bien que vous fuyez les grandes phrases vous fuyez les grands mots. Vous vous méfiez de toute de ce ton-là, c'est quelque chose que.
Ouais. Oui, bah particulièrement sur un livre qui prétend donner un point de vue ou en tout cas plusieurs points de vue sur l'éducation nationale. C'est un livre qui peut sembler en effet. Alors j'ai vraiment refusé le pamphlet. Il y en a eu, je m'en fous de ça. C'est un livre qui j'espère rencontre autant d'une étrangeté, d'une ce que on disait, d'un décalage, d'une perplexité que vraiment d'une critique. Alors s'il y a une critique, elle passe fondamentalement par quelqu'un qui comprend pas. Et ça, je tiens à ce que ça continue à être comme ça. Or quand vous ne comprenez pas, ce qui est mon cas en fait, parce que je suis quelqu'un qui comprend pas des tas de choses encore aujourd'hui, vraiment. Je mens pas. Hein. Enfin bon. Les gens vont croire que si je dis je mens pas, c'est que je mens. Mais bon. et je pense que c'est quand la critique vraiment passe d'abord par ce canal d'une grande perplexité, d'un grand étonnement sur le fait que les choses puissent être comme celles-là. C'est quasi Montesquieu. Bon, comment peut-on être persan? C'est tout le temps comme ça. Il me semble que ça a un autre type de l'efficacité, le mot est grand, mais ouais. Et puis de toute façon, oui, je préfère les petites questions. Il y a une anecdote que je cite souvent, une phrase, un bon mot de Matisse. Il y a une dame qui vient lui demander, un vernissage ou je ne sais pas quoi, qui lui dit « Maître, qu'est-ce que l'art ?» Et Matisse répond « Vous n'auriez pas une question plus petite
?» Oui, c'est ça. Moi, c'est ça, il y a une fausse... Une espèce de fausse idée aussi, dans votre manière d'écrire.
Ouais,
qui du coup fait
que... Qui n'est pas tout à fait fausse, heureusement et hélas, quoi.
Oui, voilà, mais elle est fausse. Mais du coup, ça nous oblige à nous arrêter, en fait.
C'est ça.
Dire, tiens. Un peu comme les enfants, en fait, quand ils posent des questions.
Ben, j'espère qu'il y a une grande... Je crois qu'il y a une grande part de... Enfin, bon, je suis mal placée pour le dire, mais une part d'enfance dans tout ce que j'ai fait, pas simplement dans ce livre-là, parce qu'il parle de l'école, mais depuis le début, c'est le point de vue, un point de vue enfantin, ouais. Ben oui.
Alors, on est presque arrivé au terme. J'aimerais juste vous poser une dernière question. Elle est liée au fait à une autre émission que j'ai faite il y a 2 ans. J'ai invité ici Johan Feyerberg. Ouais. Que vous connaissez maintenant, je crois. C'était pour son livre qui s'appelait Après la littérature. Donc, il revenait sur cette histoire de mort de la littérature, etc. Et en fait, lui, il défendait l'idée qu'il y avait aujourd'hui une nouvelle génération d'écrivains qui écrivaient le contemporain, donc qui étaient en phase avec leur époque, et qui, du coup, n'écrivaient pas comme avant la mort de la littérature, donc avec ce grand L avec cette majuscule, etc., qui n'écrivait plus en moderniste attardé, donc avec un récit comme ça, qui est traditionnel, etc. Et il vous mettait dans cette liste d'écrivains qui étaient vraiment qui étaient en phase avec son temps, tout simplement. Et du coup, Bon, il déclinait les différentes caractéristiques de cette nouvelle littérature. Notamment, il disait qu'il y avait une considération, enfin, qu'il y avait un rapport plus sensible, plus viscéral, plus organique à l'écriture, et que c'était aussi une littérature plus humble, moins héroïque, quoi. Il parle de littérature sans héroïsme, mais du coup plus politique aussi. Parce que précisément, comme on dit, elle ramenait à la terre, quoi. Elle ramenait à la terre. D'abord, j'aurais aimé savoir si vous vous retrouvez dans ces caractéristiques. Et après, j'ai une deuxième chose qui m'a fait rire, en fait. J'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, il a dit ici sur ce plateau, il a dit, ben, notamment, j'en ai pour preuve que l'un des motifs préférés de ses contemporains, c'est la nage. Parce que la nage, c'est une immersion comme ça dans la matière. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je suis tombée sur votre livre. Il y a un chapitre où vous êtes effectivement dans la piscine, vous êtes dans l'eau. Et c'est un chapitre où vous êtes vraiment immergé dans l'eau et on est immergé dans vos pensées. Et qui est très, comment dire, où on est vraiment dans vos mouvements de brasse. Et en plus, on se demande pourquoi ce passage est là, enfin, si ça tombe un peu comme ça, un peu du ciel. Et je me suis dit, mince, il a raison, quoi. Il y a vraiment quelque chose avec la matière, avec l'eau, avec. Voilà, donc j'aurais aimé vous entendre
Ouais,
là-dessus.
bah, je pense aussi que c'est. Alors, au-delà des rapprochements qui peuvent être. Parce que je pense que tous les écrivains auxquels ils pensent écrivent assez différemment. Hein,
Oui.
mais comme c'est, vous savez, la fameuse photo du nouveau roman, ils écrivaient tous différemment, mais on
Mais
les.
oui.
Voilà, c'est une question de génération, on les réunit tous ensemble.
Bien sûr.
Après, je pense que c'est aussi le retour de bâton de la Restauration des années 80. Hein, ça ne pouvait pas durer comme ça éternellement, hein, le retour à une littérature, bon, pour le plus sympathique, on va dire échenose, quoi, une littérature qui joue avec la littérature, qui joue avec le roman d'aventure et qui fait voilà, qui construit une forme de postmodernité avec ça. Et puis ça reste intéressant, mais bon, c'est ce qu'il y a le plus, j'allais dire, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, peut-être, de ce qui est sorti dans les années. Il n'y a pas Quechenoz, hein, mais dans les années 80. Donc il était temps que cette parenthèse plus ou moins heureuse, hein, se referme et qu'on repasse un peu aux choses sérieuses. Après, comment dire, le retour à une forme d'humilité ou de je ne sais pas quoi, là. Hein, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, alors c'est pas neuf, hein, Kafka est humble, je ne sais pas, hein, bon, c'est une posture
C'est vrai.
ancienne, quoi, j'allais dire, je sais pas, de la quasi-totalité des écrivains qui m'intéressent, qu'ils soient du 15e siècle ou de 1920, et ils ont cette position minimale là, d'être parmi les leurs, parmi les nôtres, parmi tout le monde, quoi, je sais pas, ou avec une arrogance qui sert à. Si je reviens à Ducasse, à exploser l'adversaire, quoi. Ça, c'est autre chose. Enfin, ça, c'est quelque chose qui vient en plus, quoi. Qu'il faut pas négliger. Et moi, ce qui m'intéresse dans les quelques livres que j'ai lus, qui sont en effet un peu neufs, hein, c'est leur reprise de ce qu'on appellerait un peu rapidement des procédés d'avant-garde, donc d'anciens procédés datés, comme le montage, et qui réinvestit. Deviennent percutants ou peuvent devenir percutants. Je sais pas, Sophie d'Ivry a fait ça avec 5 mains coupées. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Fanny Taillandier aussi qui fait des choses très bien en reprenant, hein, quand même des systèmes de comme ça, d'enquête, de montage et tout ça. Et puis, de toute façon, cette reprise de ces procédés-là, je vais parler pour ma paroisse, hein, c'est que. Les gens de ma génération, donc qui sont un peu plus âgés, hein, qui ont 50 ans et plus, ou en tout cas plus de 45 ans, qui viennent plutôt de ce qu'on appellerait la poésie ou un champ poétique élargi, sans limite, hein, sans bord, ils ont commencé à faire ça, ou recommencé plutôt, hein, on n'invente rien, hein, mais repris ça à nouveau frais dans les années 90. Et il y a eu des livres récents, passionnants d'enquêtes et de reprises. De ces procédés-là. Et je pense en particulier à un livre que je cite souvent, qui est paru chez Amsterdam, qui est un livre de littérature sur l'argent, qui s'appelle Argent, de Christophe Hanna, qui est le produit d'une enquête où il est allé chercher les gens qui, dans son entourage proche et lointain, en leur demandant combien vous gagnez, quel est votre rapport à l'argent, etc. Et il a tout remanié comme ça pour en faire une sorte de livre, essai, autobiographique à moitié, qui est fascinant, quoi. Qui est un livre de documents, hein, ce qu'on appelle un document poétique, oui. C'est comme ça qu'il appelle ça, qui est fascinant sur notre rapport à l'argent aujourd'hui, puisque c'est un livre qui est sorti il y a quelques années, et qui, là aussi, éditorialement, ça m'intéresse. Ça sort chez Amsterdam, qui est un éditeur plutôt... sciences sociales, philo, etc. Et qui a une collection comme ça, qui sort des livres de littérature intermédiaire, on va dire, hein, ou mêlés, comme ce que je fais à la fabrique ouais. Hein, ou chez POL d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Ouais, ouais. Et ça m'intéresse, qui est des livres de littérature, vraiment pour moi c'est un livre de littérature, qui sortent chez d'autres éditeurs comme ça pour voilà, mettre une petite alerte ou un petit quelque chose comme ça, de manière à ce qu'on lise différemment un peu la littérature, à ce qu'elle soit... En phase avec un autre champ de l'édition. Ça m'intéresse. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai publié quelques livres à la Fabrique et qui auraient pu être publiés chez POL. Et inversement, il y a des livres que, par exemple, Un œil en moins, oui, qui est sorti, ça aurait pu sortir clairement. À la Fabrique. Hein, bon. Et pour des raisons, peu importe, hein, je voulais que ça sorte chez POL, qui est mon éditeur historique.
D'accord. Et ben c'est fini.
Merci.
Merci beaucoup. Merci pour cette discussion. Ouais. Et je rappelle donc que votre livre s'intitule Un hamster à l'école. Oui, à l'école, pardon. Il vient de sortir à la Fabrique et je le recommande bien sûr à l'ensemble de nos internautes. On se retrouve très vite pour un nouveau Dans le texte. À bientôt.